France Inter, 7h.
France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bienvenue dans le 7-9. Bonjour à tous. Nous sommes le mardi 19 janvier. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, le Premier ministre annonce un changement de braquet dans la campagne de vaccination. Il assure que plus d'un million de personnes seront vaccinées d'ici la fin du mois et dément tout stock caché. Nous l'entendrons dès le début du journal et on en parlera aussi à 8h20 avec le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran. Le standard est ouvert. Vous attend 01 45 24 7000. Les autres titres, Agnès.
Chirurgicaux, en tissu, FFP2, le point sur l'efficacité des masques face aux variants. Le cauchemar des habitants de Manaus au Brésil où les hôpitaux sont débordés. Les premiers débats houleux sur la loi séparatisme en commission à l'Assemblée. Et puis, pour le plaisir, à retrouver à la fin du journal les répliques cultes de Jean-Pierre Bacri qui nous a quittés hier.
Autre invité ce matin à 7h50 avec vous, Léa.
Il a été nommé patron de la SNCF il y a un peu plus d'un an, mais entre le Covid et en pleine grève de la réforme des retraites, et après les grèves de la réforme des retraites, il est plutôt devenu le pompier de la SNCF. La compagnie a pris cher en 2020, les comptes sont au rouge, mais il promet d'en sortir grâce à son plan stratégique sur 10 ans. Jean-Pierre Farandou sera notre invité à 7h50.
A tout à l'heure, Léa.
France Inter.
Le Premier ministre est donc monté au front hier pour tenter d'éteindre un début de polémique sur le manque supposé de doses de vaccins, alors que la campagne de vaccination des plus de 75 ans a débuté hier. Après Paris Match, Jean Castex a décidé de faire de la pédagogie dans des émissions moins formatées. Il était hier soir l'invité de C'est à vous sur France 5. Au menu, bien sûr, la campagne vaccinale, mais aussi, Yael Gauz, une dose de communication politique.
Il y a 3 semaines, le président tapait du poing sur la table. Et maintenant, c'est Jean Castex qui doit gérer les impatiences vaccinales.
Nous n'avons pas de vaccin ou de stock caché.
Plus d'un million de vaccinés à la fin du mois, il s'y engage.
On va mettre la surmultipliée.
Mais à ce rythme-là, un Français sur trois, au mieux, aura eu sa dose d'ici à l'été.
Est-ce que l'Europe peut, vis-à-vis des laboratoires, essayer d'accélérer ? Nous nous y employons.
Jean Castex, devenu incollable sur la grippe espagnole, n'a qu'une priorité.
C'est de prendre les bonnes décisions au bon moment pour assurer la protection de mes concitoyens.
Et en 6 mois de gestion de crise, quelque chose a changé. Ne plus subir la critique, monter au front.
Si je fais aujourd'hui un arrêt sur image et que je me compte part avec tous les pays qui nous entourent, je me dis, finalement, notre bilan est honorable.
De Paris Match à C'est à vous, gommez aussi l'image de père fouettard dont on l'affuble, y compris dans la majorité.
Ah, mais est-ce que vous doutez que je préférerais faire autre chose qu'annoncer aux Français que je ferme des restaurants ? Vous croyez que je fais ça par plaisir ?
Sans ambition personnelle, vraiment ?
Ah, pour moi-même, là, vous voyez, je suis suffisamment occupé à gérer le présent pour ne pas trop perdre de temps à me projeter dans l'avenir. Point trop d'info.
À Matignon, Jean Castex a planté un frêne parce que c'est un bois, dit son entourage, qui résiste au feu. Le sujet vaccinal, lui, est très, très inflammable.
Et le Premier ministre en berne dans les sondages avec 35% d'opinions favorables, 40% pour le chef de l'État. Sondage Odoxa Dentsu Consulting détaillé dans le journal de 7h30. Mieux se protéger contre les variants du coronavirus, c'est désormais la question qui agite les scientifiques avec en point d'orgue la question des masques. Chirurgicaux, FFP2, masques en tissu, la Bavière et l'Autriche ont décidé d'exiger des masques FFP2 dans les transports publics. Alors le Haut Conseil de la Santé publique s'est réuni hier. Le point sur ces recommandations avec Sandy Dauphin.
Le variant anglais est certes plus contagieux, mais son mode de transmission, lui, reste le même. Il n'y a donc pas besoin de modifier les barrières de protection, explique Fabien Skinazi, médecin biologiste, membre du Haut Conseil de la Santé publique.
Le virus, il est plus contagieux parce qu'il se développe plus facilement dans les cellules humaines, au niveau du rhinopharynx. Le mutant, finalement, c'est comme une clé qui ouvre encore mieux la serrure. Mais après, il se trouve toujours à l'intérieur des gouttelettes et le mode de transmission n'a pas changé. Donc il n'y a aucune raison de changer les mesures puisque le mode de transmission est toujours le même.
Même recommandation qu'en octobre dernier, le port d'un masque chirurgical ou en tissu, à condition que ce soit la norme AFNOR de catégorie 1, celui qui filtre 90% des particules de 3 microns. Quant au masque FFP2 utilisé par les soignants plus couvrant, plus filtrant, le Haut Conseil de la Santé publique ne recommande pas sa généralisation.
Utiliser un masque FFP2 dans la vie quotidienne, on n'en a pas besoin. Ce masque FFP2 ne va pas apporter forcément une protection bien supérieure on va le croire parce que c'est un masque plus filtrant. En fait, c'est pas le virus qu'on veut filtrer, c'est les gouttelettes. Et les masques classiques sont largement suffisants.
À condition de bien les porter pour couvrir la bouche et le nez.
Parmi les variants, le variant brésilien qui fait des ravages, plus de 210 000 morts au Brésil, pays le plus touché d'Amérique latine. La campagne de vaccination a débuté hier avec des premières injections devant l'iconique statue du Christ Rédempteur qui domine la ville de Rio de Janeiro. Une campagne de vaccination très attendue dans l'état d'Amazonas, frappé de plein fouet par la deuxième vague. Reportage à Manaus de Jean-Mathieu Albertini.
Pour certains, il ne reste plus que les prières. Devant l'hôpital du 28 août, des dizaines de personnes attendent des nouvelles de leurs proches soignés à l'intérieur. Assise sur un banc, Isadora est épuisée mais se refuse à quitter les lieux sans son frère. Résignée, elle dort depuis 3 jours sur le parking.
On ne peut pas abandonner un proche ici parce que si sa situation empire, il risque d'être mort à mon retour. Hier, je suis restée jusqu'à l'aube. Presque tous ceux qui étaient là ont perdu un membre de leur famille.
L'oxygène qui a manqué la semaine dernière reste trop rare et pour certains, la mauvaise nouvelle tombe. Beaucoup passent des coups de fil en pleurs pour annoncer le décès d'un proche. Eduardo a encore de l'espoir pour son frère qui doit être transféré vers une autre région du Brésil où la situation sanitaire est mieux contrôlée. Il est par contre beaucoup plus pessimiste pour sa mère.
Elle est internée, intubée et en soins intensifs. Ça fait 2 semaines que je viens ici, dans l'espoir de recevoir une bonne nouvelle. Mais il y a trop de gens et seulement une infirmière pour 40 patients.
Malgré l'espérance que suscite l'arrivée des premières doses de vaccin à Manaus, la ville continue de déplorer tous les jours au moins 50 décès liés à la Covid-19. À Manaus, Jean-Mathieu Albertini pour France Inter.
Les Brésiliens qui pourront de nouveau se rendre aux États-Unis, tout comme les Européens, si l'on en croit Donald Trump, qui a annoncé hier la prochaine réouverture des frontières sous réserve d'un test de dépistage négatif, une mesure aussitôt dénoncée par son successeur Joe Biden, qui entend maintenir ses restrictions de circulation. Ultime journée à la Maison-Blanche pour Donald Trump, qui devrait décider d'une série de grâces présidentielles. En France, la justice va passer 25 ans après, avec l'ouverture cet après-midi du procès de l'ancien Premier ministre Édouard Balladur, 91 ans, et de l'ancien ministre de la Défense François Léotard, 78 ans. Ils sont soupçonnés d'avoir bénéficié de rétro-commissions sur des contrats d'armement pour financer la campagne d'Édouard Balladur en 95. C'est le volet financier de l'affaire Karachi. Explication dans le journal de 8h.
Il est 7h07, Agnès. 51 articles, 1878 amendements. Le projet de loi sur le séparatisme en discussion à l'Assemblée.
En vive discussion en commission. Première séance tendue hier, Maxence Lambrecq, les oppositions accusent le gouvernement de verrouiller le débat et d'avoir écarté de trop nombreux amendements.
La radicalisation dans les prisons, le port du voile, la mixité sociale, des questions absentes du texte et donc des amendements jugés irrecevables, l'insoumis Alexis Corbière.
Emmanuel Macron a dénoncé une ghettoisation que la République a laissé faire et tout cela est complètement absent de ce texte et tous les amendements que nous avions présentés à ce sujet ne pourront pas être discutés.
La droite y voit un déni de démocratie. Annie Genevard.
Je voudrais rappeler qu'à l'Assemblée, il n'y a pas de débat interdit. Nous entendons bien introduire dans la discussion parlementaire des sujets comme celui du voile, dont la propagation exponentielle vise à imposer une autre norme sociale que l'immense majorité des femmes de notre pays refusent.
Réponse immédiate du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti.
Le voile peut signer l'asservissement, il peut aussi signer un choix. Et donc rentrer dans ces discussions-là maintenant, c'est pour moi nous enliser dans des débats qui ont déjà eu lieu
et qui diviseraient profondément la majorité. Voilà la raison de ce débat limité pour le socialiste Boris Vallaud.
Nous avons vu nos amendements en faveur de la mixité sociale écartés. Alors j'ai bien compris qu'il s'agissait pour la majorité de faire la police dans ses rangs. Mais enfin, ce n'est pas nos débats parlementaires de supporter les turpitudes de la majorité.
15% d'amendements rejetés, c'est la moyenne, plaide le patron de la commission. Et ce texte ne traduit qu'une partie du discours présidentiel des Mureaux, admet le gouvernement.
Loi séparatisme, charte des imams, Emmanuel Macron à l'offensive sur les questions de laïcité. Ce sera la chronique de Thomas Legrand un peu avant 8h moins le quart. Qui pour sauver l'Eurostar? La compagnie Transmanche tire la sonnette d'alarme, estimant possible un dépôt de bilan au printemps, après avoir perdu plus de 80% de son chiffre d'affaires l'an dernier. Eurostar, filiale à 55% de la SNCF, laquelle traverse également une crise. Les syndicats de l'entreprise dressent un état des lieux très sombre pour l'avenir et en appellent à l'État. Maxime. Maxime Debs.
Sans certitude sur l'avenir, les syndicats se demandent bien dans quel état l'entreprise se trouvera dans quelques mois et ont même consenti à signer la semaine dernière, à l'exception de la CGT, un accord d'activité partielle de longue durée pour garantir les salaires et l'emploi dans la partie TGV. Mais quid des autres branches ? L'impact sera réel, bien plus que les autres années, pronostique Thomas Cavel de la CFDT.
Pour les collègues, effectivement, qui sont sur les terrains, pour ceux qui sont sur les fonctions support, il y a des perspectives de diminution très importante d'emploi.
En tout, Sudrail estime à 2500 les pertes sèches attendues en termes de postes cette année. Chiffre jugé plausible par les autres syndicats, mais la SNCF ne peut s'enferrer dans l'austérité, clame la CFDT, laquelle en appelle à l'État pour qu'il grossisse l'enveloppe de son aide allouée en septembre. 4,7 milliards qui ne suffiront pas pour les syndicats à relancer fret, train nuit et tout le reste, comme le souhaite le gouvernement. Le mois dernier, le PDG Jean-Pierre Farandou avait estimé à 5 milliards les seules pertes liées à l'épidémie.
Il est hors de question qu'on vienne nous expliquer que s'il y a eu de la dette à cause de la crise Covid-19, c'est de la faute des cheminots, comme ça a été le cas en 2018.
On entend assez depuis des mois, encore plus avec cette crise, que le train doit être le moyen de transport de demain, dont acte pour les syndicats qui attendent donc du gouvernement qui le traduise par son soutien.
Le PDG de la SNCF qui sera donc l'invité de Léa Salamé tout à l'heure à 8h-10. Nouveau succès mais dans la douleur pour les handballeurs français qui ont battu la Suisse 25-24 et se rapprochent un peu plus d'une qualification pour les quarts de finale du Mondial qui se déroule en ce moment en Égypte. Prochain match samedi face à l'Algérie. C'était une voix, une écriture, une personnalité singulière et attachante du cinéma et du théâtre français. Jean-Pierre Bacri est mort hier d'un cancer à 69 ans. Dans les rôles qu'il choisissait ou ceux qu'il écrivait avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri pourfondait le conformisme et la servilité, comme en témoignent ses répliques cultes rassemblées par Corinne Pellissier.
Tu fais chier, merde !
Dans la vie comme au cinéma, il était l'anti-héros, le râleur, toujours la mine renfrognée, toujours un peu blasé.
T'as quelque chose de fort, genre haute vie.
Un trait de caractère révélé en 93 au grand public, dans Cuisine et Dépendance.
On commence à s'emmerder ferme.
Et devenu très vite sa marque de fabrique, dans la foulée de ce premier grand succès au théâtre, puis au cinéma.
Bah évidemment, hein, c'est le monsieur qui passe à la télévision. Belle affaire. Quel con qui passe pas à la télévision.
Le début d'une longue et fructueuse collaboration avec son éternel complice d'écriture et de jeu, Agnès Jaoui.
On était tous là comme ça autour d'une table. Moi j'avais un gros poisson dans la main.
Un air de famille, on connaît la chanson Le goût des autres en 2000.
The weather is nice.
Jean-Pierre Bacri incarnait un chef d'entreprise amoureux de sa prof d'anglais.
The weather is nice. Vous n'avez pas faim, vous ?
No, I'm not hungry.
What ?
I am not hungry.
Me, I'm angry.
On parle de très mal.
Capable de toutes les répliques, même les plus osées, que ce soit pour des rôles qu'il écrivait.
T'es pas content ?
Si, mais il boude parce qu'il y a des tas de journalistes qui devaient venir et qui sont pas venus.
Ah bon ? Quand ils disent qu'ils viennent, ils viennent pas ? C'est vraiment des gros PD, c'est incroyable.
Ou même ceux qu'il choisissait.
Quand tu vois quelqu'un, tu peux pas d'entrée comme ça lui sentir le cul.
Ici, aux côtés de son ami Alain Chabat, dont le film Didier a l'humour décalé, comme lui.
Mais qu'il est con, ce Klebs !
Mais toujours tendre.
C'est donc aujourd'hui que tout le monde a décidé de me faire chier. Hein ? C'est aujourd'hui.
Voilà, et nous, c'est aujourd'hui que nous sommes tous un peu tristes. 10 répliques cultes à retrouver sur franceinter.fr et puis des rendez-vous tout au long de la journée sur Inter, dans Boomerang avec Augustin Trapenard et dans Hop 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 avec Antoine Decaune.
Merci Agnès Soubirand.